commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 11. Rappelez-vous, le chapitre 11, c'est le chapitre qui parle d'un rachat. D'accord ? On a expliqué la semaine dernière, on est rentré un petit peu dans les détails pour expliquer qu'est-ce que sent le rachat. Et on a expliqué la semaine dernière que finalement, de la même manière que le tzaddik, sa force, c'est que le tzaddik était capable de faire en sorte que non seulement, il n'écoute pas son yetzer hara, mais que son yetzer hara n'a même pas son mot à dire. C'est ça le tzaddik. C'est-à-dire que le yetzer hara, si on peut se fermer la porte, parce que j'ai allumé la clim. Ça veut dire que le tzaddik, son yetzer hara, ni il l'écoute, et ni même il s'exprime. D'accord? Et la seule différence entre les deux catégories de tzaddikim, c'est qu'on l'avait expliqué, il y a un tzaddik parfait. C'est le tzaddik qui n'a plus du tout de mal. Alors que le tzaddik imparfait, c'est le tzaddik qui au fond de lui reste un tout petit peu. Mais dans la pratique, d'accord? Ils sont pareils. C'est-à-dire dans la pratique, ni il va faire le mal et ni il veut faire le mal. Ça s'exprime jamais. Ça c'était le tzaddik. Chapitre 11. On a expliqué, la semaine dernière après, il y a le rachat. C'est quoi le rachat? Le rachat, en vérité, c'est que l'âme animale, c'est quoi son but? L'âme animale, son but, c'est de prendre le contrôle d'un des trois vêtements du corps. Rappelez-vous, on avait expliqué que le corps avait trois vêtements, à savoir la pensée, la parole et l'action. Et le but du Yetzer Hara, c'est quoi? Le but du Yetzer Hara, à chaque instant, à chaque moment donné, c'est qu'au moins un instant, on va réussir à prendre le contrôle de la pensée, de la parole et de l'action. Ça veut dire que on va penser à des bêtises, on va dire une bêtise, on va faire une bêtise. Et comme il avait expliqué la semaine dernière, que même si je pense pas à une avéra spécifique, mais je pense simplement à une pensée interdite, une pensée pas cachère, par exemple à des femmes, etc., comme on avait expliqué la semaine dernière, et ben même ça, c'est considéré une avéra, parce que ça s'appelle penser à quelque chose de pas bien, et c'est néfaste pour la neshama. Donc, on a expliqué que quelque part, au moment où je fais la faute, par rapport à cette avéra, je suis appelé un rachat. Parce que j'ai écouté mon yetzer hara. Seulement, comme on a expliqué, il y a plusieurs catégories de rachats. Et finalement, le portrait du rachat qu'on avait dressé la semaine dernière, c'était un rachat qui était relativement soft. D'accord? C'était un rachat qui était relativement soft. C'était un rachat qui fautait pratiquement jamais. Comme on avait expliqué, c'était un rachat que, en vérité, il a fauté une fois par an. Et quand il arrive à la fin de l'année, il est capable de te dire, j'ai fauté tel et tel jour et voilà la faute que j'ai fait. Donc on a compris qu'on est à des années-lumière de tout ça. D'accord?
C'est facile pour lui.
Mais ça s'appelle quand même un rachat. Pourquoi ça s'appelle un rachat? Parce que ça s'appelle un bon rachat. Ça veut dire que c'est un rachat par rapport au moment où il a fauté. Oui, parce qu'au moment où il a fauté, concrètement, il s'est laissé aller. Donc, quelque part, par rapport à ça, il a appelé rachat. Alors on va maintenant avancer un petit peu. Et on va parler un petit peu plus des gens comme nous. Des gens qui ne fautent pas une fois par an, je parle pour moi en tout cas, qui ne fautent pas qu'une fois par an, qui fautent beaucoup plus que ça. Des gens qui ne sont pas capables, à la fin de l'année, de répertorier tous les avérotes qu'ils ont fait. D'accord? Parce que pour nous, quand on voit ça, on se dit c'est un tzaddik. Bien que c'est pas un tzaddik. D'accord? Parce que rappelez-vous, le tzaddik, c'est celui qui ni il ne faute, ni il veut fauter. Le rachat, il veut toujours fauter, et des fois, ça lui arrive de craquer. Alors le bon rachat, c'est qu'en vérité, ça lui arrive une fois sur mille. Et nous, après, il y a les rachats comme nous. Comment? Si ça va arriver peut-être 10 fois sur 1000, 20 fois sur 1000, 50 fois sur 1000. Après, c'est le ratio de fois qu'on va tomber qui va faire la différence entre les rachats. Alors justement, Veyeshmi. Vous avez Veyeshmi?
Quand c'est marqué tzaddik dans la Torah, on parle d'un tzaddik comme on voit ici.
Non. Quand on parle dans la Torah tzaddik, on parle d'une personne qui est jugée comme un tzaddik. Alors on est maintenant à la page 158. Veyeshmi, il y a une personne, Shara Goverbo Yoter. Qu'est-ce qu'on avait expliqué la semaine dernière? Que le Yetzer Hara, pour une personne comme ça qui est ultra religieux, il va essayer de le faire fauter dans un des trois vêtements, à savoir la pensée, la parole ou l'action. Et on avait expliqué longuement la semaine dernière qu'en vérité, fauter par la pensée, sous certains aspects, c'est plus grave que fauter par l'action. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que l'action, on a dit, ça peut être machinal. Alors que la pensée, c'est pas machinal. La pensée, on y pense et c'est réfléchi. Bon. Mais ça, c'est une personne, finalement, qui va fauter seulement sur un des trois vecteurs, à savoir la pensée, la parole ou l'action, un des trois. Et maintenant, il y a des gens, comme nous, que le Yetzer Hara, il est encore plus fort, et que là, il va pas le faire fauter dans un des trois. Il va lui mettre, les trois en même temps. C'est-à-dire, quand tu fais une bêtise, tu fais full option, toutes les options. Ça veut dire, la bêtise, il y pense, il en parle, et il la fait. Il baigne dedans, il vit dedans, d'accord? Il dort avec, il se lève avec. Merci. Et ça, c'est un rachat déjà qui est déjà de catégorie B. Il y a le rachat catégorie A. D'accord? Ah bah oui, c'est le rachat soft. Mais ça, c'est un rachat déjà que quand tu fais une avéra, il va jusqu'au bout. Alors peut-être qu'il n'en fait pas souvent d'avérotes, mais quand il en fait, il les fait bien. D'accord, il les fait bien. Alors, donc Veyeshmi, Shara Gouverboyoter, dans les mots.
158,
Veyeshmi. Voilà, Veyeshmi, première année. Il y a une personne que le mâle gouverboyoter, le mâle est plus fort chez lui, ou Mutlapshim, Bokol, Shlosha, Levushim, Shalara, vont s'habiller en lui tous les trois vêtements du mâle. Ça veut dire, c'est quoi les trois vêtements? La pensée, la parole et l'action. Et donc, ou Machatio, Baverot, Ramurot, Yoter. En plus, non seulement que ça va être la pensée, la parole et l'action en même temps, en plus, le Yetzer Hara va le faire fauter par des avérotes beaucoup plus graves que ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, on a expliqué, il pense de temps en temps de petites avérotes, petites pensées, il pense de l'union d'un homme et d'une femme. Quelque chose de très 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 lointain. Ou bien on a dit, Bitul Torah, il a manqué d'étudier la Torah. Là, il y a des gens que c'est pas ça leur avérote. Il y a des gens que leur avérote, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pensée, d'accord? Pensée, parole et action. Et en plus, c'est pas une fois par an, Be'itim Krovi Myoter, c'est avec une fréquence qui est plus soutenue. D'accord? Donc ça, c'est un rachat déjà de catégorie B. Ah, seulement. Pourquoi on ne l'appelle pas le rachat top niveau? Pourquoi on l'appelle pas le rachat top niveau? Approche-toi. D'accord? Pourquoi on l'appelle pas le rachat top niveau? Parce que ce rachat, en vérité, il regrette tout le temps ce qu'il fait. Il regrette tout le temps la vérote qu'il fait. C'est-à-dire qu'il fait des avérotes assez fréquemment, et quand il fait la véra, il baigne dedans à 100%. Ça veut dire que quand il fait la véra, il connaît personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils font la véra, ils connaissent personne. C'est comme des gens, par exemple, quand ils ont faim, ils connaissent personne. Il n'y a pas cachère, pas cachère. Il va en Israël, c'est écrit bazar. Il a vu cachère.
Ah, c'est à l'envers.
Non, c'est pas à l'envers. C'est ils ont joué avec le bête et le raf. Mais il y a des gens comme ça. Quand ils ont faim, ils connaissent personne. De la même manière, il y a des gens, quand ils sont dans le feu de la véra. Alors, c'est quoi une véra? Une véra, on a expliqué par rapport aux femmes, mais ça peut être par exemple aussi le feu de la colère. Il y a des gens, si par exemple quelqu'un il m'a énervé, tant que j'ai pas pensé à insulter l'autre et que je lui ai pas décollé une droite, il est pas tranquille. D'accord? D'accord? Tant qu'il a pas décollé la droite, mais après une fois qu'il a décollé la droite, qu'est-ce qui va se passer? Il regrette tout de suite, la seconde d'après. D'accord? Il regrette. C'est ça qu'on a expliqué ici. Parce que une fois qu'on a fait la avéra, hein, l'esprit de folie nous quitte. Tant qu'on fait la avéra, on a un esprit de folie. Et quand un esprit de folie, c'est-à-dire qui me prend, qui me hante et qui me prend et qui me pousse à faire la avéra. Mais dès que j'ai terminé de faire la avéra, l'esprit de folie me quitte. Et donc c'est la raison qui revient. Et quand ma raison revient, là je comprends que j'ai fait une bêtise, je regrette. Et je comprends que j'ai agi de manière insensée. Le problème, c'est qu'en général, quand je réalise, c'est déjà trop tard. Donc, Ar Ben Taïm, cependant, Mitraret, il regrette. Ou Baïmlo, il rouret Chouva. Et il a des pensées. Le Teshuva. Miprinat Atov chez Benafcho, chez Mitgaber, Kset Ben Taïm. Pourquoi il a dépensé le Teshuva? Parce que rappelez-vous, à l'intérieur de nous, nous avons du mal et du bien. Donc, le mal, il m'a poussé à faire la Avera. Mais une fois que le mal, il s'est éclaté. Le bien, lui aussi, il veut parler. Le Yetzer Tov, lui aussi, il veut parler. Il se met à parler. Il dit, mais attends, t'es pas parti trop loin un petit peu? Et là, moi, je suis au milieu. Et je vois le Yetzer Tov, je dis la vérité, ouais, c'est vrai, je suis parti un peu trop loin cette fois-ci. Je suis parti trop loin. Pour qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a le Yetzer Tov qui est venu et qui m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? T'es parti, pourquoi t'as fait ça? Parce que le bien s'est réveillé un petit peu.
Tout ça commence à se manifester.
À l'intérieur, ça se passe. Là, je le décris, si vous voulez, comme deux entités qui disputent. En vérité, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est la conscience. J'ai une conscience positive, une conscience négative. Ma conscience négative me pousse à faire des bêtises. Ma conscience positive, elle se réveille une fois que j'ai fait la bêtise. Et elle se réveille. Chez Mitgaber, Tzad Ben Taïm, qui se renforce légèrement, et là seulement, chez Ein Loïd Gabrout Kokar Lenatzah Hata. Alors on a envie de lui dire, mais attends, je comprends pas. Si tu me dis que ton Yetzer Hara, il regrette ce qu'il a fait, et que tu regrettes ce que tu as fait, alors comment ça se fait que tu refautes le lendemain? Normalement, si tu regrettes, tu aurais dû décider de plus recommencer. C'est là qu'il dit non. Il dit parce qu'en vérité, il y a regretté et il y a regretté. Il y a regretté dans le sens, je regrette à 100% ce que j'ai fait et je prends la décision de plus recommencer. Ça veut dire que le regret est très puissant et très profond. Mais il y a un regret dans lequel je suis dégoûté d'avoir fait la avéra, mais quelque part, ça ne me dérange pas au fond de moi. C'est-à-dire, je ne suis pas content de l'avoir fait, j'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Mais ce regret et cette conscience positive n'est pas assez puissante pour faire en sorte que la prochaine fois que j'aurai une pulsion négative, je ne l'écouterai pas. C'est en vérité ce qui nous arrive tous les jours. Vous avez des gens qui tombent tous les jours dans le même panneau. Et tous les jours, ils regrettent. Ça nous arrive tous. On a tous nos petites avérotes. D'accord? Chacun a sa avéra qui se connaît. Dans laquelle il sait qu'à chaque fois, il retombe. Avec une certaine fréquence, il retombe. Pourquoi il retombe s'il regrette juste après? Parce que la conscience positive n'était pas assez puissante pour gagner le mal. Ça veut dire, c'est très important ce qu'il dit ici. Il y a la conscience pour me rappeler que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Il y a la conscience qui non seulement va me rappeler que ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais elle va me pousser à prendre des précautions pour que le mal ne réarrive pas. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, quand on arrive à un niveau que ça m'a dérangé au point que je prends mes précautions et que je prends des décisions, là, c'est quelque chose déjà de très puissant. Juste, excusez-moi, je vais terminer le paragraphe après les questions. C'est plusieurs questions, là. Donc, et là seulement, il n'est pas assez fort pour gagner le mal, pour se séparer entièrement de ses fautes, liot modé veozev. Le roi Salomon, il dit comme ça. Il dit, il y a celui qui avoue, et il y a celui qui avoue et qui décide d'abandonner la faute. C'est pas la même chose. Imaginez par exemple, d'accord, que quelqu'un me blesse, et qui me dit, je m'excuse de t'avoir dit ça. C'est pas ça ce que je vais entendre, moi. Je m'excuse de t'avoir dit ça, et je recommencerai plus. Sincèrement, je recommencerai plus. Ça s'appelle modé. Modé, ça veut dire, il reconnaît la faute qu'il a fait. Reconnaître, c'est déjà quelque chose de très très bien, parce qu'il y a des gens qui reconnaissent pas leur faute. On parlera après du vrai rachat. Le rachat catégorisé, celui-là, il reconnaît pas ses fautes. Il dit, non, mais je suis bien, qu'est-ce qu'il y a, où est le problème, tout va bien, etc. Au fond de lui, ça le dérange, mais il te le dira jamais. Ça, c'est, non, ça, c'est le numéro C. On parle pas de lui, maintenant. On parle du numéro B. Le numéro B, il est dérangé par sa avérote. Il est modé. C'est-à-dire qu'il avoue. Il est conscient des avérotes qu'il a fait. Mais la Oda'a, le fait qu'il a avoué n'est pas assez fort pour aller jusqu'à Ozev. Pour aller jusqu'au fait qu'il va décider d'abandonner la faute. Modé ve Ozev. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il dit modé ve Ozev Yerucham. Celui qui avoue et qui abandonne le mauvais chemin, lui, Yerucham, il sera pris en pitié. Mais celui qui est constamment en train d'abandonner, en train d'avouer qu'il a fait des fautes, mais concrètement, il retombe dans le panneau, on dit, mais ça sert à rien d'avouer les fautes. Tu crois que Dieu, il savait pas que t'as fait la faute? Tu dis, je suis désolé, j'ai fait une faute. C'est comme, imagine-toi, quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, tu dis, je suis désolé, je t'ai blessé. Ah bah, merci, bien dit. Donc, je savais pas que tu m'avais blessé. Ça, je le savais, tu m'avais blessé. C'est la même chose. Des fois, on dit, Akadosh Baruch Hu, excuse-moi de t'avoir blessé, je t'ai blessé. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, c'est que tu l'as blessé. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je suis aussi Ozev? Est-ce que je vais aussi abandonner le mauvais chemin? Donc, je termine avec ça, les deux lignes. Ve'alze amru rabotenu zichonam livracha. Sur ça, les chachamim ont dit, Rechaim, Meleim, Charatot. Que les Rechaim, leur vie est pleine de regrets. Ils sont constamment en regretter. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une roue. Mais ça, je vais expliquer plus longuement plus tard. Non. Shem Rova Rechaim, ça c'est la majorité des Rechaim. Sheyesh Prinatov Benavsham Adain, qui ont encore un peu de bien en eux. D'accord? Voilà ce qu'il a expliqué ici. Maintenant, j'écoute vos questions. Mais ça, il faut bien commander ce qu'il vient de dire ici.
La Alors, tchouva, finalement, c'est Modé Veozeb.
Oui. Modé Veozef, ça veut dire avouer la faute et prendre des dispositions pour ne plus recommencer. Mais c'est très difficile parce que ça nous arrive à tous de regretter ce qu'on a fait sans prendre les dispositions pour pas que ça arrive.
Ce que je suis en train de parler, c'est comme si on était alcoolique. Quoi. C'est la même
chose. Peu, oui, bien sûr.
L'alcoolique, il peut pas s'empêcher.
Regarde,
s'il sait que ça le rend malade de boire, mais il peut pas s'empêcher de boire.
Regarde, je te donne un exemple. Est-ce que ça t'arrive de t'accrocher avec ta femme? Certainement, comme tout le monde. D'accord. Est-ce que tu as remarqué que la majorité des fois, on s'accroche à peu près autour des mêmes choses? À peu près. T'es d'accord?
Peut-être.
Non, pas peut-être. Pas. Hein
peut-être.
Non, dis-moi ce que tu penses.
Non, je sais pas.
Est-ce que vous avez pas remarqué que ça tourne? Pourtant, à chaque fois, tu t'excuses, et un il s'excuse, l'autre il s'excuse, etc. Après, ça retombe. Pourquoi ça retombe? Parce qu'on a que le modé, on n'a pas le Ozev. C'est la même chose avec le Kadosh Baruch Hu.
C'est le même modé qu'il y a dans la prière du Madin.
Modé Ani le Fenecha. Non, c'est modé, c'est reconnaître la grandeur des Kadosh Baruch Hu. Là, c'est modé, c'est reconnaître ses fautes. Reconnaître ses fautes. Alors,
des fois, tu es sincère, tu veux arrêter.
Ouais.
Très bonne question. C'est très bien ce que tu dis. On sait très bien, par exemple, que tous les kippours ont fait teshuva, et on sait pertinemment que le kippour d'après, il y aura quelque chose sur quoi demander pardon. Alors, c'est du pipeau ce qu'on a fait à kippour?
Non, on a fait modé.
Sur le coup, on avait peut-être la sincérité. Puis
Alors, c'est ça. C'est qu'en fait, peut-être sur le coup, on a réellement modé, on a avoué nos fautes, et on est dérangé par nos fautes. On veut arrêter de faire les fautes, mais apparemment, on n'a pas été assez loin pour arriver à Ozev, ça veut dire à prendre les dispositions concrètement comment abandonner la faute et essayer de ne plus recommencer.
Ozev, c'est factuel.
Ça veut dire, évidemment, que ce rachat de catégorie B, il est dérangé par sa avérote. Et ça, en vérité, c'est un peu nous tous. Je pense que nous tous, on rentre dans cette catégorie de rachat. Le premier rachat, celui qu'il faut de temps en temps, une fois par an, sur la pensée, ou que la parole, ou que l'action. Bon, ça c'est rachat, pour nous, c'est un tzaddik, celui-là. D'accord? Là, je parle d'un rachat dans la voie médiane. C'est le rachat qu'il faut de temps en temps, mais qu'il regrette. C'est-à-dire qu'il a quand même la sensibilité de la Kdoucha. Mais quand il faut, il est dedans. Il a la sensibilité de la Kdoucha, mais la sensibilité n'est pas assez forte pour le pousser à ne plus recommencer. Donc du coup, il recommence.
Un autre sort aussi, c'est le rachat qui faute, et même au moment de la faute, il n'est pas bien.
Alors ça, on verra après, d'accord, ça, c'est... Il y a encore deux trop détails.
Même au moment, je parle.
Oui, j'ai compris.
Il y a une faute par la contrainte.
Non, mais c'est qu'il faute parce qu'il est un peu... Parce qu'il a envie, quoi, mais il n'est pas bien.
Il est propulsé, mais il n'est pas bien. Oui.
Est-ce que, quand, là, on est en train de parler des mécanismes du rachat.
D'accord, oui.
Bon. Quand l'individu, il grandit, il est censé en accumuler beaucoup plus de rachat, de sagesse. Donc la sagesse devrait l'aider à limiter ses fautes et à plonger dans la catégorie A, B ou C du rachat.
Le problème, c'est que la vérole change avec le temps. Quand on est jeune, on faute principalement par la jalousie. Quand on grandit, on faute principalement par les désirs. Et quand on grandit encore, quand on vieillit, on faute, on est à la recherche d'une heure. C'est comme ça, ça change constamment.
Les sources des fautes, à l'origine, quand on regarde bien, quel que soit l'âge, toujours la même chose. C'est quoi? C'est l'envie et la jalousie.
Non, ça dépend, non. Il y a des gens que...
L'envie d'accumuler, de faire mieux que l'autre, ou être envieux et jaloux. Il n'y a que ça.
Parce que vous n'êtes pas encore en troisième âge. Quand vous arrivez au troisième âge, vous verrez, sérieusement, quand vous arrivez au troisième âge, vous verrez qu'il y a un autre Yetzirah qui s'appelle le Yetzirah du Kavod.
Parce que mais ça vient avec le Kavod.
C'est pas par jalousie, non, Kavod.
Je confirme, il a raison. Moi, je suis vieux.
On peut rechercher.
Ce que je vous dis, c'est, j'invente pas, c'est le Maharal de Prague qui dit ça.
Ah bon.
Oui, il y a trois.
Oui, on recherche le Kavod parce que d'autres l'ont déjà.
Non, pas du tout, c'est le Kavod pour le Kavod. Il y a des gens, ils veulent que le Kavod. On peut donner du Kavod à tout le monde, il veut son Kavod. Il veut sa place.
Mais on ne recherche pas le Kavod.
D'accord, parce qu'on n'est pas. Nous, on n'est pas à cet âge-là encore. On ne comprend pas ce que c'est. Peut-être que les gens plus âgés. Bon, on ne va pas les pointer du doigt. Alors.
38 ans et demi.
38 ans et des poussières. Alors, attention. 8 ans.
C'est pas vieux, hein.
Bon. Oui. Comment on fait pour regretter?
Il me dit que tu es vieux.
Je regrette une fois que tu es seconde.
Ah bon, bientôt 39.
Regretter, ça veut dire avoir. C'est une bonne question. Viens, dis, qu'est-ce que ça veut dire regretter? Regretter, ça veut dire avoir une pensée de teshuva. Ça veut dire être un peu dégoûté de ce qu'on a fait.
Mais j'ai pas envie que ça se contrôle. Des fois, je fais des choses, ça me dégoûte pas.
T'as kiffé, quoi.
Pendant la Vera, mais après la Vera, tu regrettes. Donc tu regrettes, donc c'est bon, donc t'es dans la catégorie B. On est tous dans cette catégorie.
Oui, mais quand on dit regretter, c'est sans vouloir.
Alors non, quand je dis regretter, ça veut dire, je me dis, j'aurais pas dû le faire.
Faut se travailler, ça.
J'aurais pas dû le faire. Ouais. Mais de là à aller jusqu'à, je prendrai les précautions pour que ça ne arrive pas, ça, je sais pas si on va arriver là.
Comment on fait pour ça?
D'accord. C'est comme tout à l'heure, t'as donné l'exemple d'un alcoolique. On prenait l'exemple d'un alcoolique. C'est quoi un alcoolique?
Ou un drogué.
C'est quoi un alcoolique? C'est une personne qui craque à chaque fois. Il a une addiction, d'accord? Il est.
Une addiction. Celui qui a une addiction, voilà. Il est comme ça.
Donc, il est dépendant de ça. Il sait que c'est grave. Il sait que c'est pas bien. Et quand il se réveille après une cuite, comment il se sent?
Mal.
Bien. Mal. Mais il se sent mal. Mais il a du vomi partout. Il est pas bien. Il est dégoûté. Et il jure que plus jamais il touchera une goutte d'alcool. Mais seulement, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est qu'il est, il a regretté ce qu'il a fait, mais il n'a pas été jusqu'à prendre les dispositions pour dire, dorénavant, je rentrerai plus dans ce bar, dorénavant, j'arrêterai de fréquenter ses copains. Non, ça, il n'était pas capable. Et pour ça, la prochaine fois qu'on te le propose, il va dire, bon, ça va, je prends juste un peu. Hop, et après, hop, c'est remporté.
Pour les addictions, c'est difficile. Maintenant, pour aller à Vérot, est-ce qu'on peut se.
Mais on est addict à Vérot? Bien sûr. On a une Sarah qui est addict à Vérot.
Le regret, ça se travaille. Et il y a des avéros des fois, maintenant je ne me rends pas compte que c'est très grave. Et en apprenant de la Torah et tout...
C'est la question de M. Bergel. Donc c'est vrai qu'avec le temps, on apprend à regretter certains avéros sincèrement et ne plus les recommencer. Mais après, il y a d'autres avéros qui viennent. Tout le monde faute. Après, bien sûr que le niveau des fautes change, mais tout le monde faute. Donc si je faute, c'est-à-dire qu'il reste du mal à l'intérieur. Mais on continue à fauter. Chacun qu'on va continuer à fauter.
Le but, c'est plus on avance, plus on est censé fauter moins.
Ça, c'est la théorie.
Et faire en sorte que la qualité.
Évidemment, mais il reste du mal quand même. Mais on va développer ça. Oui.
Mais en vrai, comme vous avez dit, on est rachat, c'est quand on fait une avéra. Donc en vrai, on est tous rachats, personne ne peut pas être.
On est tous rachats, oui, bien sûr.
Il y en a, c'est des bons rachats, comme il y en a, c'est des mauvais rachats.
Voilà.
Mais en vrai, on est tous rachats.
Alors attention, je précise encore une fois ce que j'ai précisé le cours dernier et l'avant-dernier cours, pour pas qu'on fasse d'erreur. Quand on dit qu'on est tous rachats, ça veut pas dire qu'on sera jugé comme des rachats. D'accord, c'est possible qu'on sera jugé comme des tzadikim, que Dieu fera la majorité de la somme de nos actes, il fera une moyenne, et que la moyenne sera positive. C'est pas un problème. Là, je parle du rachat dans le sens, si j'ai du mal, est-ce que j'ai du mal en moi ou pas? Et donc là, il te dit par rapport à ça, t'as appelé rachat. Donc il y a très 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 peu de personnes qui sont tzadik. Bien sûr. Alors, juste, je voulais m'arrêter un petit peu sur ce qu'il dit ici. Il dit ici, il y avait une question, il y avait une autre question. Il dit ici que Rechaim, Meleim Charatot, c'est basé sur une Gemara, qui dit que les Rechaim, leur vie est pleine de regrets. Ça veut dire que le rachat, il passe son temps à regretter ce qu'il a fait. Vous savez, il y a des gens comme ça, toute la vie, qui disent, oh, j'aurais dû faire ci. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais dû avancer ci. Oh, j'aurais dû faire ci. Et toute leur vie, ils regrettent. C'est-à-dire que finalement, un rachat ne peut jamais profiter du moment. Parce qu'il est constamment en train de regretter ce qu'il a fait. Voilà. Kiffe, alors que.
Et celui qui kiffe la vie,
il kiffe. Il kiffe. Le kiff qu'il a fait, un kiff de 5 minutes va lui coûter 10 heures de regret.
Top. Et s'il ne regrette pas?
D'accord. Ah, s'il ne regrette pas, il est en catégorie, c'est ça, on va voir après.
Ah, d'accord.
D'accord. Là, on parle d'un rachat
non
standard.
Non seulement il regrette pas, mais il te dit, attends, tu devrais faire comme moi, c'est un kiff.
Non, ça, c'est autre chose. Mais honnêtement, je pense que la majorité du Ham Israël ne rentre pas dans la catégorie C, ni dans la catégorie A d'ailleurs. On est dans cette catégorie, la catégorie B. C'est pour ça qu'il ne développe pas trop, parce qu'on est tous dedans. C'est une catégorie dans laquelle on est toujours en train de regretter. Mais les imcharatot. On regrette tout le temps. On dit, dommage, j'aurais dû faire ci, dommage, j'aurais dû faire ça. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah nous apprend à vivre avec le moment. La Torah nous dit que c'est pas bien d'être là constamment en train de regretter. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est très important ce qu'on va dire ici. Quand on dit que les Rechaim, ils sont tout le temps en train de regretter, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'en vérité, ils pensent tout le temps à leur Averot. On va expliquer plus tard que c'est pas forcément positif de penser à sa Averot. Ouais, vous allez voir plus tard, on va expliquer qu'à un certain moment, quand on décide de décrocher, quand on décide d'arrêter, il faut plus y penser. Parce que le fait même de penser à sa Averot, ça fait que concrètement, ton cerveau, il est occupé avec quoi? Il pense aux Averot. Et on a du mal à maîtriser le mécanisme de notre cerveau pour être capable de dire non, je pense que c'est pas bien ce que j'ai fait. Moi, je pense que c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais mon cerveau, entre temps, il pense à ça. Et quand il pense à ça, il va dire finalement, peut-être c'est pas si mal que ça. Hein. Allez, viens, on recommence encore une fois. Ben oui. Donc, c'est bien sûr, 100%. C'est très difficile à maîtriser. Quand tu penses à quelque chose, on a beaucoup de mal à maîtriser quelle va être la conclusion de cette pensée, même si moi, je crois bien faire. Ça veut dire qu'à un certain moment, si on prenait un alcoolique par exemple, on lui dit ne pense plus à ça. N'y pense plus. Parce que quand tu vas y penser, le fait même d'y penser, ça ne te rend pas bien, etc. Ça va t'angoisser. N'y pense plus. Mais le rachat n'est pas capable. Pourquoi il n'est pas capable? Parce qu'il sait qu'il n'arrête pas de fauter. Donc il n'arrête pas de regretter. Et comme il n'arrête pas de regretter, il n'est pas bien. Comme il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, donc il recommence et il refaute, etc. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme une personne qui se lève tard le matin. Quand on se lève tard, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive le soir pour dormir, on n'est pas fatigué. Mais comme on n'est pas fatigué, on dort tard. Mais quand on dort tard, on se lève tard. Et si on se lève tard, on dort tard. Et si on dort tard, on se lève tard et c'est fini. Ça s'arrête jamais. Vous êtes d'accord? Et on peut rester des années comme ça. Des années. Il se lève tard. Il y a des gens, ils se lèvent à midi, une heure. Tu vas pas lui dire d'aller dormir à minuit, comme un toutou. C'est pas possible. Minuit, mais la nuit commence pour moi maintenant. Ça fait que commencer. Pourquoi? Parce que, et constamment, et je vous garantis le bonhomme quand il se lève à 1h de l'après-midi, il se lève à 1h de l'après-midi et que le soleil a déjà fait la moitié de son parcours, d'accord? Il est dégoûté. Il dit, mais j'ai raté ma journée. Il dit, ce soir, je vais me reprendre. Mais il arrive pas le soir, il n'arrive pas à dormir. Il va s'allonger, il s'endort pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que le rachat est constamment. Alors, c'est l'exemple. Donc, ça veut pas dire que celui qui se lève tard est un rachat, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ça veut dire que le rachat, finalement, c'est ça. C'est qu'il est constamment en train de regretter ce qu'il a fait. Il est constamment dans le regret. Il regrette, mais il retourne dans le panneau. Il regrette, il retourne dans le panneau. C'est quoi ces erreurs? Deux choses. Le numéro un, c'est que son regret n'a pas été assez puissant pour arriver au niveau de prendre des décisions et de prendre ses dispositions pour ne pas retomber, numéro un. Il y a une deuxième chose, le fait même d'avoir pensé au Averot. Je sais qu'il y avait plusieurs fois des gens qui demandaient au rabbi, des fois, il leur demandait un petit coup de teshuva sur des averot qu'ils avaient fait, des balais de teshuva qui étaient dérangés par les averot qu'ils avaient fait dans leur jeunesse, qui ont fait teshuva. Et ils demandaient au rabbi, voulait un petit coup. Vous savez, des fois, un balais de teshuva, il peut être dérangé de son passé, des averot qu'il a fait, de toutes les choses qu'il a mangées, de tout ce qu'il a ingurgité, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a. Il peut être dérangé. Il sent que son corps est pas bien de ça. Et j'ai vu plusieurs fois comme ça des histoires de gens qui ont raconté, qui ont demandé au rabbi un petit coup de teshuva. Et le rabbi leur répondait, ne pensez pas à vos fautes. Plus tard. Il leur répondait plus tard, on verra. Plus tard. Des fois, il est traîné comme ça. Pas traîné, mais ça veut dire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a un comme ça qui a raconté, j'ai lu une histoire à ce Shabbat, une personne comme ça. Pendant 20 ans, chaque année, il demandait au rabbi, et le rabbi disait, on verra ça plus tard. Il demandait à chaque fois un petit coup de teshuva sur la vague, on disait, on verra ça plus tard. Et seulement 20 ans plus tard, que le rabbi lui a dit, pour le petit coup de teshuva, tu devras faire ça et ça. Pourquoi? Parce que le fait même de penser au Averot, ça peut faire tomber quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que normalement, numéro 1, quand une personne fait teshuva, on lui dit ne te retourne pas derrière. Quand une personne court, on lui dit ne te retourne pas derrière pour voir où tu es. Le fait même de te retourner derrière pour voir où tu es, ça même, d'accord, tu vas dire, etc., tu vas t'angoisser. Il ne faut pas se retourner. Tu avances tout droit et tu ne te retournes pas. Tu avances. Seulement quand tu auras pris vraiment un bon parcours, là tu vas te retourner. Vous savez, on approche des 20 ans de Guimel Tamouz, de l'Eloi du Rabbi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote du Rabbi. Une fois, quand le Rabbi était petit, je crois qu'il devait avoir 6 ans ou 7 ans comme ça. Et une fois, il est monté à l'école, il y avait un arbre à l'école. Et le Rabbi, non, les enfants, ils s'amusaient là-bas à monter sur l'arbre. Vous savez, comme les enfants, ils grimpent sur un arbre, etc. Bon. Et sa maman le voit de loin, son fils, et son fils est en train de grimper sur l'arbre. Bon, vous savez comment ils font les enfants. Ils montent un petit peu, ils branchent, ils ont peur, et hop, ils redescendent. Et elle voit, la maman, elle voit son fils, le Rabbi, il monte, et il arrive en haut. Alors elle lui pose la question, elle dit, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour monter en haut? Pourquoi t'as pas eu peur? Il lui a répondu, il a dit, c'est très simple. Il a dit, tant que je suis pas arrivé en haut, je regarde pas en bas. 5 ans, ça, ça, enfin, vraiment très, très petit, quoi. 5, 6 ans, très petit. Et j'avais lu une fois une histoire du Rav Mendel Futterfass. Le Rav Mendel Futterfass était un chassid qui était en prison, d'accord, qui était en prison en Sibérie. Donc vous imaginez, il était en prison parce qu'il avait diffusé la Torah. Et le Rav Mendel Futterfass, il avait une habitude de suivre l'enseignement du Baal Shem Tov, de prendre un enseignement de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. Donc vous imaginez en prison, la majorité du temps sans tefilin, en étant avec des gens, la pègre, d'accord. Et donc c'était un moment dans lequel c'est très difficile à apprendre l'enseignement. Mais lui, Rav Mendel Futterfass, il raconte, il a écrit d'ailleurs, enfin c'est pas lui qui a écrit, mais c'est ses élèves qui ont écrit, il essayait de prendre des enseignements à chaque fois de ce qu'il voyait en prison. Et il a raconté comme ça à ses élèves. Beaucoup plus tard, quand il a pu, au prochain, sortir, et qu'il a pu rentrer en Israël, donc il était là-bas, il était le Mashpia d'une yeshiva en Israël, la yeshiva de Kfar Chabad, il a raconté comme ça. Il a dit, je me rappelle, quand j'étais en Sibérie, je me rappelle à un moment, il y avait une personne que, vous savez, à cette époque-là, tout le monde essayait de s'occuper. Et donc une personne lui dit, moi je suis un funambule, je sais que je suis capable, vous me donnez une roue, vous mettez un fil entre deux bâtiments, je suis capable de marcher d'un endroit à l'autre. Et il a raconté, il a dit que tout le monde bien sûr se moquait de lui, il a dit, allez-y, essayez, vous allez voir. Et donc ils sont partis en haut du toit, très très haut, s'ils tombaient, c'est fini, d'accord. Ils ont mis un long fil, une longue corde, ils l'ont étendu, et toute la prison s'est rassemblée pour voir le spectacle, d'accord. C'est un spectacle pour voir comment est-ce qu'il va réussir à marcher. Et il a marché, pas après pas, et il est arrivé au bout. D'accord. Alors, Ravenev Futterfass, il a dit, il y avait des gens intelligents qui étaient là-bas. Vous savez, tout celui qui était un peu contre-révolutionnaire, pac, il partait là-bas en Sibérie. Et alors, il a dit, je suis parti discuter avec lui après, je lui ai demandé, je lui ai dit, comment tu fais pour faire ça? Il lui a répondu la même réponse que les Avzil, que leur Rabbi. Il lui a dit, la règle numéro 1 dans mon métier, ne jamais regarder en bas, ne jamais regarder à droite, ne jamais regarder à gauche. Quand tu te mets sur le fil avec la roue ou avec le vélo, etc., tu regardes la destination. Et tu quittes pas des yeux la destination. Tu regardes ni où tu es, ni à droite, ni à gauche, ni les applaudissements. Tu regardes la destination et tu te focalises sur la destination. Et tu regardes, et ça c'est le secret numéro 1. Et il a dit, et c'est comme ça que ça marche. Il a dit, mais c'est très dur. Parce que quand tu sais que tu es très très haut et que tu veux savoir où tu en es, etc., c'est très très compliqué. Il a dit, c'est le plus dur. Ben, c'est exactement ce qu'on voit ici. Que l'erreur de ce rachat de catégorie B, c'est quoi? L'erreur de ce rachat en catégorie B, numéro 1, c'est qu'il n'arrive pas à regretter de manière assez forte pour décider de ne plus recommencer. Numéro 2, le fait même de penser à son passé, c'est pas bon. D'ailleurs, plus tard, la Mora Zaken expliquera que ça, en vérité, c'est un piège du Yetzer Hara. Pensez à sa vérote. Imaginez, par exemple, vous êtes comme ça un jour, je sais pas moi, un mercredi après-midi, 14h. Aucun rapport. Tout d'un coup, tu te mets à penser à ta vérote. Tu dis, la vérité, j'ai fait d'avérote dans ma vie. On a envie de se dire, tu t'imagines, c'est beau, quoi, la cavote. Il y a des gens, pendant la Amida, ils pensent à des bêtises. Moi, pendant ma journée, je pense à Dieu, je pense à ma vérote. T'as envie de te dire, mais je suis super, je suis un tzaddik. Faux. C'est le Yetzer Hara. Pourquoi c'est le Yetzer Hara? Parce que le Yetzer Hara, il fait ça pour te déprimer. Parce que quand tu vas penser à ta vérote, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, finalement, je suis un naze. Et il va te déprimer. Et la Mora Zaken va donner plus tard quelque chose que vous pouvez tester. Il a dit, à 100%. Tu peux tester. Il a dit, quand le Yetzer Hara en plein milieu d'une journée comme ça, il te fait penser à ta vérote, c'est garanti que dans l'heure qui suit ou dans les minutes qui suivent, il va te proposer une avéra. C'est sûr. Que pour te préparer à l'avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il veut d'abord te déprimer. Pour te sentir que t'es un naze. Il dit, qu'est-ce que tu la joues comme ça, religieux, etc. T'es un naze, t'es un bidon. Il te fait penser à ça. Une fois que tu penses à ça et qu'il t'a bien écrasé, qu'il t'a bien montré que t'es n'importe quoi, que t'es une zut, qu'est-ce qu'il va faire après? Il dit maintenant, il va faire l'avéra. Et tu peux pas lui refuser. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire non, je suis un tzaddik. Ah, t'es pas un tzaddik, t'es une zut. Ça veut dire que penser à sa averot, ça peut venir du yitzhara. Oui, c'est un piège. Pourtant, nous, on peut se dire, mais attends. Et des gens pendant leur ami. Et d'un autre côté, l'admor Hazaka va expliquer plus tard.
Ça peut être aussi le contraire.
Attendez. D'un autre côté, celui qui est en train de faire sa amida, et tout d'un coup, il a une pensée complètement tordue qui lui tombe dans la tête. Ça, on avait expliqué, ça fait quelques mois. Il a une pensée complètement tordue qui lui tombe dans la tête. Alors nous, on a envie de dire, bah attends, celui qui a pensé à Dieu, à faire teshuva pendant ses affaires, c'est que c'est un tzaddik. Et celui qui a pensé à des bêtises pendant sa amida, c'est que c'est un rachat. Alors regarde, c'est tellement pourri que même l'amida, tu peux pas te retenir. Eh ben, les deux sont faux. Parce que si pendant la amida, t'as une mauvaise pensée, c'est que le yetzer hara, il sent que t'es en train de faire du chiffre. Donc il dit, attends, hé, moi aussi je veux parler. Et pac, il t'envoie une pensée. C'est un bon signe. Ça veut dire que tu travailles. De l'autre côté, quand t'es en pleine journée, aucun rapport, que le yetzer hara, il dit, tiens, je t'envoie une pensée de Avera, et que t'as envie de plonger dans l'Avera, les gens aiment bien penser à leur faute. Ils aiment bien se dire, ah, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc. Eh ben, c'est garanti que le Tzahara va te proposer une Avera juste après. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on fait pas teshuva du tout? Parce que dans ce cas-là, il faut bien faire teshuva sur sa Averot. L'Admor Hazaken expliquera plus tard qu'il y a des moments prédéfinis. Par exemple, les Chassidim à l'époque, ils avaient l'habitude, une fois par mois, une fois par semaine, le jeudi soir, un moment défini, décider qu'à ce moment-là, ou bien même une fois par an, à Kippour, dans ce moment-là, je pense à ma Averot. Sinon, n'y pense pas. Parce que le fait même de se retourner, ça même, ça pousse la personne, ça pousse la personne à refauter. D'accord? Donc là, avec ça, on a développé le rachat de catégorie B. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Tout est clair? Vas-y, une question.
Non, mais
là,
mon gars,
vas-y. Ça, mon gars, ah. Tu t'es endormi avec les histoires? Voilà.
Alors, hein? Alors, déjà, t'es obligé de penser à ta vérité. Alors, si tu penses, tu avances sur comment tu dures la
tête? Non!
T'as fait un rat, t'as eu des choses à rat, puis tu continues dans ta. Je veux dire, si tu penses pas.
Comment on fait pour chasser l'obscurité?
On allume.
La lumière. Maintenant, t'as beau te concentrer combien c'était mauvais l'obscurité, c'est pas ça qui va enlever le problème. Tu allumes la lumière. Et quand tu auras beaucoup de lumière, tu diras, finalement, avant c'était pas bien. Mais d'abord, il faut allumer beaucoup de lumière. Parce que sinon, c'est un piège du yitzhar hara pour faire tomber la personne. Il veut te faire penser à ta avérote pour te déprimer, pour que tu sois pas bien et pour te faire tomber. Donc il faut pas penser à sa avérote. Sauf à des moments définis. Et donc ça, c'est l'erreur du rachat de catégorie B, du fait qu'il est constamment en train de penser à sa verrotte, donc finalement, il est constamment en train de regretter. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avancer. Je sais pas si vous arrive ça des fois. Des fois, on voit que chaque fois, on regrette les mêmes choses. À chaque fois, on se dit, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais arrête de dire, j'aurais dû. Ça veut dire quoi, t'aurais dû. Maintenant, t'es comme tu es, maintenant. Et maintenant, il faut chercher à avancer. Il faut chercher à rajouter.
Mais tu peux faire en sorte de
recommencer. Ah, ça, c'est, si t'as eu un tel regret, t'es en mode, modé, veozev. Ça veut dire, tu avoues la verra que tu as fait. D'accord? Veozev, et en plus tu as abandonné. Sinon, c'est pas bon.
Tu dis, tu y penses. Après, tu vas oublier. Tu vas recommencer.
T'as pas besoin d'y penser. Pourquoi tu. À quoi c'est d'y penser? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas penser à la verra? Alors, tu décides de plus recommencer. Après, il faut pas commencer à réfléchir, à dire, oui, j'ai fait ci, il faut faire teshuva. T'inquiète pas, laisse tranquille la teshuva. Elle viendra plus tard, la teshuva.
Mais toute ta vie, tu vas y penser?
La teshuva, c'est pas regretter ses bêtises. Je regrette au début mes bêtises, mais après, il faut avancer. Il faut...
Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Il faut avancer.
Jusqu'à quand?
Jusqu'à très longtemps.
Mais quand tu reviens.
Ah, d'accord, il rêve top.
Mais quand tu reviens pour.
On revient pas. Il faut avancer.
Ah, d'accord, toute sa vie.
Toute sa vie. Après, t'inquiète pas, ça viendra. La teshuva reviendra. D'accord? Il faut tracer, il faut avancer. Il faut jamais regarder derrière. Il n'y a pas de rétroviseur.
Ça, c'est d'accord. Mais
d'accord. On se dit pas un moment. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ceux qui sont dans les voitures de course, voilà, Serge, viens nous. Serge, est-ce que dans les voitures de course, il y a un rétroviseur?
Le problème, c'est qu'ils passent le temps à regarder
le rétro. Et est-ce qu'ils passent le temps à regarder le rétro ou ils passent le temps à regarder devant? Hein? Mais normalement, est-ce qu'il faut regarder le rétro? Jamais. On regarde jamais le rétro. On trace. C'est vraiment, s'il n'y a pas le choix.
Hein. Prendre des précautions.
Voilà. Ok. Donc ça, avec ça, on a développé avec ça, hein, le rachat de catégorie B. Ok. Maintenant, on va passer au rachat. Hein. Rabotaille, tu es prêt? On va passer maintenant au rachat de catégorie C. On va devoir développer un peu celui-là. Alors, jusqu'à présent, messieurs,
non.
Il y avait une question? Alors, bonsoir. Jusqu'à présent, on avait deux catégories de rachat. Le rachat qu'il faut très 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 peu, le rachat qu'il faut souvent, mais qui regrette tout le temps. mais qui est constamment en train de regretter. Donc il regrette, il faut, il regrette, il faut, il regrette, il faut. Voilà. Mais il retourne tout le temps. Il retourne tout le temps. Ah, cependant, Mish Eino Mitraret Leolam, celui qui ne regrette jamais ses avérot. Alors, là, tel qu'il le présente ici, bien sûr, il va nous présenter celui qui ne regrette jamais aucune avéra. Mais en vérité, ça peut nous arriver à nous, d'une certaine manière, qu'on ne regrette pas une avéra spécifique. C'est-à-dire, je regrette toute l'avéra sauf celle-là. Donc, par rapport à une avéra spécifique, on peut être un rachat catégorisé. Ça peut nous arriver. Seulement là, il va nous présenter un rachat qui regrette aucune avéra. D'accord ? Ah, Michel Mitraret Leolam, celui qui ne regrette jamais ce qu'il a fait. Ve'en Baim Lo Irure Tshuvaklal, et que lui vienne aucune pensée de Teshuva. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rachat comme ça, c'est très 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 rare. Et si on a quelques-uns par génération, c'est déjà énorme. Pourquoi ? Parce que nous, des fois, on voit un rachat en train de fauter, on voit le bonhomme en train là, il est la Shabbat, Kippour, etc. Et vas-y, il est à Vérot. Tu dis, celui-là, c'est un rachat, il regrette jamais. Qu'est-ce que t'en sais qu'il regrette jamais ? Personne ne sait ce qu'il a dans sa tête. Personne ne peut savoir ce que ce bonhomme a dans sa tête.
Alors, s'il te dit. D'accord ? Il te dit, moi, c'est mon kiff, moi.
Bien sûr qu'il va te dire ça. Mais parce que, est-ce que tu crois qu'il va te dire, c'est parce qu'il le pense? Tu crois que quand il est chez lui à la maison, tu crois qu'il regrette pas? Quand il va s'allonger, il regrette pas? T'en sais rien.
Je sais pas.
D'accord? C'est très très rare, les rachats qui rentrent dans cette catégorie. En fait, pour être dans un rachat dans cette catégorie, il faut presque être une personne qui est un rachat, qui est un moumar. D'accord? Les haris. Alors, je vais expliquer. Dans Shulchan Aruch, on parle de deux catégories. Il y a une personne qui fait des averot par plaisir. C'est-à-dire qu'il a craqué. Il y a une personne qui fait d'avérot pour énerver Dieu, par idéologie. D'accord ? Alors, celui qui fait d'avérot par plaisir, une fois qu'il a eu son plaisir, qu'est-ce qui se passe juste après ? Il regrette. Dans la majorité des cas, il regrette. Parce qu'en vérité, il voulait pas la faire, mais il voulait kiffer. Donc, le kiff a été plus fort, l'envie du kiff a été plus fort que la vera, que l'interdiction des cas de jouer en cours. Mais il regrette. Donc, ça, c'est un rachat catégorie B. Même s'il a fait une très grosse avéra, une avéra énorme, même s'il n'arrête pas d'en faire. Mais il regrette, il est en catégorie B. Il est peut-être en bas de la catégorie B, mais il est en catégorie B. A priori, pour arriver au niveau d'un rachat qui regrette jamais ce qu'il a fait et qui n'a aucune pensée de teshuva, c'est une personne qui est rachat par idéologie. Par idéologie, c'est-à-dire que exprès, il fait exprès une avéra pour énerver Dieu. Mais attendez.
Peut-être par confort.
Aussi. Sans aucune circonstance atténuante. Parce qu'on connaît par exemple des gens aujourd'hui qui ont été rescapés de la Shoah et que suite à ça, ils sont exprès, ils font. Mais ça, c'est autre chose. Ça. Je parle pas de ça. Je parle d'une personne qui n'a aucun problème et tout d'un coup, il se réveille un beau matin et il décide de se battre avec Dieu.
Ah ouais.
Et donc, il y croit dedans à 100%. Il regrette jamais le bonhomme. Il est là, à fond dedans. C'est très. Aujourd'hui, de nos jours, je sais même pas si ça existe. C'est extrêmement rare. Très, 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 très rare. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui sont rachats, d'accord, soit parce qu'ils ont craqué, parce que la vera était trop tentante, soit parce qu'ils n'ont jamais été éduqués dedans, donc ils sont atténuantes. Donc, c'est pas un vrai rachat. Là, on parle d'un rachat qui est conscient de la gravité de ce qu'il fait, mais que, intentionnellement, idéologiquement, il ne regrette pas ce qu'il fait.
Il y a d'accord deux batailles. Il y a ceux qui se battent contre les religieux, contre les religions.
Oui, mais encore une fois, ces gens-là, aujourd'hui, c'est des gens qui sont nés dedans. Ils ne sont pas nés dans la Torah.
Ils ont une idéologie anti-religieuse.
Oui, mais ils ne sont pas nés dans la Torah. Ils n'ont pas quitté la Torah.
Il y a des gens qui ont... Excuse-moi de te couper.
Oui.
Il y a des gens qui ne sont pas nés dans la Torah. Il y a des gens qui ont été à l'école juive.
Oui.
Qui ont fait de l'école maternelle, du GAN, si je préfère.
Ils ont fait Shabbat chez eux.
Ouais.
Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, j'en connais, oui,
je attends, après, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui?
Un cas concret.
Aujourd'hui, il est marié avec une Goya.
Non.
Il a craqué. Hein, non? Ah, vas-y, alors bon.
Trois garçons, trois frères. Le père, il connaît.
Bon, Rachel.
Il apprend.
Chômeur Shabbat.
Il est
traditionnaliste.
Traditionnaliste, ok. Les enfants, ils ont été là à l'école en face.
D'accord.
Les trois. Du petit jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière classe. Et aujourd'hui. Ils te disent tout ce qu'on m'a appris, foutaise.
Les trois.
Quoi ?
Les trois, monsieur. Moi, ils me rendent fou. Non,
c'est parti.
Bah, y a t'es même sûr des... que le père, il était sûr dans la famille, c'était équilibré ?
Il y en a même qui t'es sort sûr de équilibré à la maison. Et après, il tourne la veste complètement. Hein.
Moi, je pense qu'il y a. Non. Si les trois, c'est qu'un problème quelque part.
Il y en a même qui sort de la yeshiva et qui retourne. Non,
alors c'est catégorisé, ça. On est en catégorisé.
Non, on n'est pas en catégorisé. D'accord ?
Tu prends la bide, c'est une catégorisé.
On n'est pas en catégorisé, je t'expliquais pourquoi. Parce que cette personne-là, il ne fait pas de la vérot pour embêter Dieu. Il craque. Ça veut dire que la vera est tellement tentante qu'il n'a pas réussi à se retenir.
Alors, je me suis mal exprimé, je crois. Il te dit...
Idéologiquement.
Il me dit tout ça, chas v'chaïla.
Mais ça veut dire qu'il fait la vera, il kiffe la vera, il baigne dans la vera.
Il fait la vera, après, Après, il faut être dans sa tête pour dire tout ce que tu dis, mais comme ça, de l'extérieur.
Ça l'arrange bien.
De l'extérieur,
voilà, ça l'arrange bien.
Ça l'arrange bien.
C'est très compliqué. Tant que t'es pas dans sa tête, tu peux pas savoir. Et même, il a donné l'exemple de Lapide, par exemple. Lapide, il est pas né dans un environnement religieux. D'accord. Et il est né dans un environnement. Il vient du milieu journaliste, d'accord, du milieu du journalisme. Dans le milieu du journalisme, ils sont extrêmement critiques envers les religieux. Donc, lui est une personne qui a une plume particulièrement aiguisée. Son père est rescapé de la Shoah.
Ils sont choqués.
Ils ont tous des circonstances atténuantes. Pour moi,
ils ont rien à voir.
Je sais même pas s'ils sont en catégorie B.
Ils sont même pas en catégorie B. Ces gens-là, ils sont choqués.
Ils sont hors concours. Ils sont hors concours. Moi, pour moi, un rachat, c'est une personne qui est dans la piste. Ça, c'est des gens hors piste. C'est du hors piste. C'est des gens qui sont pas dans la piste.
Et ouais, tu les mets où alors?
Quoi? Ils sont hors piste.
C'est hors piste.
Ça veut dire que c'est des gens comme ça, ils vont arriver en haut, d'accord? Peut-être que moi, j'aurais plus d'avérants que. Bien sûr.
Non, tout d'accord. Non, mais attends. Écoute-moi,
non, j'ai pas peur de ce que j'ai dit. Non.
Il a raison. Il a raison.
J'ai pas dit que c'est un tzaddik ce qu'il a fait. J'ai pas dit que c'est bien ce qu'il a fait. J'ai pas dit que c'est bien de se combattre avec les chivotes.
C'est pas bien, on
d'accord. Déjà, évidemment que c'est pas bien. Mais je dis que moi, quand je fais une avéra avec les connaissances que j'ai, d'accord, c'est peut-être plus grave que lui quand il fait des grandes avérotes sans connaissances.
Il a toutes les connaissances.
Non, il a pas de connaissances.
Tu prends internet, tu tapes ce que tu veux.
Pas du tout, mais il est pas né dedans. C'est pas ça la connaissance. Non. C'est pas ça la connaissance. C'est pas la connaissance lire dans un journal. Je parle la connaissance vive dedans.
La plupart des non-pratiquants, ils te disent Shabbat.
Certainement qu'il y aura un gainant pour des gens comme ça.
Tous, ils te disent Shabbat. Oui, mais... Tu as besoin de savoir ce que c'est que le Shabbat.
Ah oui, c'est vrai.
Shabbat Shalom, c'est Shabbat à la maison.
Et alors,
le Shabbat qui le vit. Mais le droit de leur bagnole, ils l'ont.
Oui, mais il faut comprendre que dans le milieu des journalistes, d'accord, on n'arrête pas de se chauffer à bloc et de dire que les religieux, ils sont en train de pomper notre argent, c'est des parasites. Tu sais, à force de répéter une bêtise, à force de répéter 100 fois, ça devient une vérité.
Non, mais le discours des religieux.
Les Américains, ils disent ça. Ils disent, répète un mensonge, il finira par devenir une vérité dans la tête des gens.
Qui a dit ça, hein? C'est Gobel.
Et ben voilà. Les Américains, ils disent beaucoup dans la publicité. Ils se répètent 100 fois un mensonge, dans la tête des gens, ça devient une vérité. Malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je pense que ces gens-là, évidemment qu'ils auront un gain homme, évidemment qu'ils seront punis pour ce qu'ils ont fait, mais que la Gemara, elle dit que les Amé Aretz, les ignorants, c'est-à-dire les ignorants, ceux qui ne viennent pas dans la Torah. On le verra plus tard dans le chapitre 31.
Parlons d'Erlin, ce qu'il a fait sur le...
Eh ben, les Améharet, les ignorants, leur avérot, leur sont considérés shogeg.
C'est pas un ignorant.
Sont considérés par inadvertance. Ça veut dire quoi ce qu'on appelle ignorant? C'est pas ce qu'on appelle ignorant. Pour moi, un ignorant, c'est quelqu'un qui est pas né dedans.
Il fait la faute pour qu'on parle du mal d'Israël. Il connaît la faute, que les gens, ils savent que les gens vont parler contre Israël.
Pourquoi il le fait, d'après toi? Pourquoi Charles Derlin, il a parlé contre Israël? Pourquoi il est comme ça?
Parce qu'il a parlé comme ça.
Est-ce qu'il le pense?
C'est pas notre problème.
Voilà, je pose la question, mettons-le en scène.
Pourquoi il va comme ça? Bien sûr qu'il le pense.
Il le pense? Et pourquoi il le pense?
Si il fait du mal à ce point-là.
Pourquoi il le pense?
Ben, parce que ça l'arrange, parce que ça lui donne de l'aura dans le milieu journalistique.
Alors peut-être qu'effectivement, par rapport à ceux qui sont, comme vous dites, anti-israéliens, anti-sionistes, peut-être c'est autre chose.
Faites un livre anti-israélien, anti-juif, tout ce que vous voulez, il va se vendre avec des milliers d'exemplaires.
100%.
Faites un truc qui c'est bien pour les juifs, tout ça, personne ne va l'acheter.
Ben, voilà. En tout cas, ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? C'est que... Ici, on a trois catégories. Je reviens à notre sujet, d'accord? On a trois catégories de rachat. On a le rachat qu'il faut très très peu, d'accord? Une fois par an, etc. Pensez par l'action. On a le rachat, d'accord? Qu'il faut beaucoup plus souvent, mais que il regrette tout le temps. Et on a le rachat qui regrette jamais. Quand on dit regrette jamais, c'est-à-dire que idéologiquement, il regrette jamais. Mais je répète ce que je dis, et je confirme ce que je dis, hein, même chez les Chabad, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Le rabbi disait beaucoup ça, que la majorité des gens aujourd'hui qui sont pas religieux, on ne sait même pas si on peut les appeler rachat. On les appelle des gens qui ne sont pas religieux. Mais le terme rachat, c'est une personne qui intentionnellement se bat. C'est comme un enfant. Imaginez un enfant. Imaginez que je suis là, j'ai une nappe, d'accord? Sur la nappe, il y a une assiette de soupe qui est posée. Et j'ai mon petit-fils qui vient, mon petit-dernier qui vient, qui tire la nappe. Et la nappe, elle tombe et il casse l'assiette de soupe et tout tombe par terre. Est-ce que je peux dire que l'enfant, c'est un rachat? C'est Shalom. Pourquoi? Parce que c'est un bébé. C'est un enfant.
Il est inconscient.
Il est inconscient. Eh ben, dites-vous que la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens qui sont pas religieux, par rapport à ça, ils sont considérés inconscients. Même si on leur répète mille fois, que faire le Shabbat, c'est assourd, quand tu es pas né dans quelque chose, tu ne le comprends pas.
Oui, mais enfin, il y a un minimum dans lequel ils sont nés, et bon, eh ben voilà.
Non?
Ils le font quand même.
Non?
Ils savent quand même qu'un certain nombre de choses.
Allez voir maintenant un Africain, d'accord? Qui porte pas de chaussures, et elle lui dit, c'est très important de porter des chaussures. Mais je sais pas de quoi tu parles.
Qu'est-ce qui caractérise?
Je dis, mais c'est très important, tu vois pas que je porte des chaussures? Regarde, des chaussures, ils sont comme ça, mes chaussures. Il dit, mais j'ai jamais vécu. Non, d'accord? C'est ton problème, fais ta vie. Moi, ce que toi t'as décidé, ça m'impose pas, laisse-moi tranquille. Je suis pas né dedans, ne m'impose pas tes trucs. Tu dis, oui, mais Dieu a dit, mais moi, Dieu, je l'ai jamais vu.
La différence entre le peuple juif et le peuple africain, notre peuple, c'est que nous, on a dit, naase venishma.
Oui, mais lui, le bonhomme, il est pas né dans une famille religieuse.
Oui, merci, ok.
Oui, mais le bonhomme, il dit, ne m'imposez pas à quoi faire. Il est pas né dans une, dans un esprit.
Et les
jeux, d'accord? Tu as raison. Mais ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Dieu leur a fait d'un miracle. Une personne, il est pas né dans une famille religieuse. Tu viens le voir. C'est la Gemara qui dit ça, ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est la Gemara. D'accord, c'est même pas que Chabad qui dit ça. Vous prenez le Chazanish, vous prenez tout le monde, il donne sa définition. La Gemara donne la définition de Tinok chez Nishba. Tinok chez Nishba, c'est un cas qui a amené un cas concret dans la Gemara. Il y a une fois un enfant qui a été pris en captivité lorsqu'il était bébé par les goyim. Ses parents l'ont retrouvé à l'âge de 20 ans. Ils l'ont racheté, etc. Ils l'ont repris. Il rentre chez ses parents. Ses parents lui disent, tu sais, tu es juif, faut faire Shabbat. Il dit, mais je connais pas votre Shabbat, moi.
C'est normal, d'accord. C'est légitime.
Attendez. Il lui dit, mais c'est assourd, c'est très grave, tu auras le Guéhinnom. Je connais pas votre Shabbat, moi. Laissez-moi tranquille, je connais pas Guéhinnom. Moi, laissez-moi tranquille, je suis un bon citoyen, laissez-moi tranquille, je connais pas vos histoires. Moi, je suis un bon citoyen, je fais mes petites affaires, je vais me marier, j'aurai des enfants, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu réponds à une personne comme ça? Eh ben, dis la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça.
On a l'exemple.
Elle dit qu'une personne comme ça.
Qui a demandé le Kaddish quand il est mort.
Exactement. Et qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit qu'une personne comme ça, il rentre dans une nouvelle définition qui s'appelle Tinok chez Nishba. Un enfant qui est pris en captivité. Et c'est très compliqué avec une personne comme ça lorsqu'il arrive au ciel. Parce que dire qu'il a fait des mitzvot, on peut pas dire, il en a pas fait. Dire qu'il a fait des averot, on peut pas vraiment dire qu'il les a fait de plein gré, parce que quelque part, c'est un peu un cas de force majeure, parce qu'il est né dedans. Il est pas né dans la Torah, il est né dans les bêtises. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dit la Gemara, on va le définir d'une personne qui est anus. Anus, c'est une personne qui a un cas de force majeure, comme si qu'il avait un pistolet sous la tempe et qu'on lui a dit, mange le cochon, on va te tuer. Et il a mangé le cochon. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça? Dieu a plusieurs options. Peut-être il peut décider, par exemple, il peut dire, bon, ben, celui-là, puisqu'il n'a pas fait sa mission, parce qu'il avait une mission à faire, il l'a pas faite. Donc, on va le faire redescendre sur Terre. Pour lui donner une deuxième chance. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a, mais concrètement, le punir, l'envoyant au Guéhinnom, ça sert à rien, parce que tu punis pourquoi? Quand tu punis un enfant, c'est parce que tu penses qu'il était conscient de la bêtise qu'il a fait. Mais quand c'est un gosse qui a tiré une nappe et qui a cassé l'assiette, tu peux pas le punir pour ça.
D'accord.
Ça veut dire, et ça c'est pas que le rabbi qui dit ça. Tout le monde dit ça.
L'exemple,
il faut savoir que la majorité des gens aujourd'hui qui sont pas religieux, que ce soit en Israël, que ce soit partout dans le monde, d'accord? C'est des gens qui rentrent dans cette catégorie. C'est des gens, c'est, par exemple, prenons en Israël, la majorité des gens qui sont pas religieux, c'est quoi? D'accord? Soit les Ashkenazes sont escapés de la Shoah. Soit des Marocains qui sont venus, et dès qu'ils sont arrivés, on s'est arrangé pour les mettre dans des villages, dans des camps, etc. D'accord? Dans des camps d'intégration. Et que suite à ça, ben, on s'est arrangé pour qu'ils quittent la Torah et les mitzvot. Et c'est une réalité. D'accord? Soit c'est des Yéménites, soit c'est des gens comme ça, qui ont quitté la Torah.
D'accord. Mais il en demeure pas moins qu'ils ont un minimum d'éducation juive à l'intérieur. Combien même? C'est pas comme le bébé qui a été kidnappé, qui a vécu 20 ans dans une famille qui est complètement goy. Là, c'est tout le cas.
C'est minimum. Mais vous comprenez pas. Bon, attendez, je voudrais avancer. Voilà. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que pour lui, la religion, c'est un rapport de force. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il habite à Haïfa. D'accord? Et qu'il a envie de prendre le bus Shabbat. Parce qu'il est comme ça, il est né dedans. Et tout d'un coup, les religieux y viennent, ils disent non, il y aura plus de bus Shabbat. Il sait qui c'est religieux qui vient de m'empêcher de prendre le bus Shabbat. Il y a un rapport de force. Pour lui, c'est un bras de fer. Et on rentre dans une logique comme ça. Pourquoi vous croyez qu'en Israël, il y a une telle fraction entre les religieux? Parce que c'est très compliqué. Une personne qui n'est pas religieux, des fois, il a l'impression qu'on lui impose un mode de vie. Et il dit, ne m'imposez pas un mode de vie. J'ai envie, Dieu préserve, de manger du chametz à Pessah. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu ne laisses pas ouvrir un restaurant? On n'a pas demandé aux religieux de manger dans un restaurant. On veut ouvrir dans notre rue, dans notre magasin, on veut ouvrir un restaurant qui vend du chametz à Pessah. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Non, il y a une loi qui est interdite. Et si tu ouvres, la police, ça va passer, elle va donner une amende. Mais laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu réponds à une personne comme ça?
Bon, attends.
Qu'est-ce que tu réponds?
J'ai une question.
Vas-y.
Ah, je sais pas, déresponsabiliser la personne que de lui dire, tu sais pas, donc,
non. C'est ta faute. Moi, je lui dis, moi, je lui dis pas ça. Jamais je lui dirai ça. Bien sûr que moi, je le mets devant ses responsabilités. Mais je parle une fois qu'il arrive après 120 ans au résultat des courses. C'est très compliqué de le juger. Pour juger quelqu'un, il faut qu'il avait toutes les armes en main. Il n'avait pas toutes les armes en main. Il savait pas se battre.
Mais ce que tu dis là, Mandy, c'est
tu vrai. Dire, pourquoi tu t'es pas battu? Il savait pas se battre.
C'est vrai pour nous aussi au quotidien.
100%.
Quand tu nous dis, non, chez moi, il faut le faire absolument avant 9h30, c'est exactement la même chose.
Tu as raison.
Faut évoluer.
Bah, au prochain. Mais quand tu as évolué et que, bah, au prochain, t'es venu au Beit Rabat et qu'on t'a sensibilisé sur l'importance de faire chez moi, d'accord? Là, à ce moment-là, en vérité, je te rends pas service. En vérité, je te rends pas service. Parce que si je t'avais pas dit qu'il fallait faire chez moi à l'heure, quand t'arrives en haut, tu dis, écoute, je savais pas. D'accord? En vérité, je te rends pas service. Ah oui, c'est quand je vous informe. Après, tu peux pas dire que t'as ignoré la loi. Ok.
Pourquoi c'est l'exemple que je t'ai donné, il rentre pas dans la catégorie.
Quel exemple?
Il rentre pas dans la catégorie C.
Je connais pas leur éducation. Pourquoi ils ont abandonné la Torah?
Il a dit qu'il faut
traiter chaque cas au cas par cas.
D'accord, je comprends. Ouais. Mais pourquoi, a priori, comme ça, en regardant plat les choses, non, rien que factuellement les choses, sans que ce soit dans un cas extrême qu'on a dit qu'ils sont choqués ou quoi. Factuellement, ils doivent rentrer dans la catégorie C. C'est pas nous le juger, on ne parle pas de ça.
Non, parce que je pense que, à mon avis, cette personne-là, il regrette la vérote qu'il a fait. Les trois, ils regrettent. Seulement, bon, tu sais, des fois, on se complaît dans la situation dans laquelle on est, et on n'a pas envie de changer. Mais il regrette ce qu'il fait.
Et plus on parle, plus on regrette. Les gens qui parlent beaucoup, c'est qu'ils regrettent.
Okay. C'est une manière d'exprimer ça aussi. Psychologie, on dit ça.
Plus il est négatif, plus il est con. C'est qu'en fait, il veut se rassurer. Quelqu'un qui parle pas, c'est un mec.
La seule manière, alors je réponds à la question, ça veut dire en d'autres termes, comment on peut faire pour ramener quelqu'un à la Torah quand c'est quelqu'un qui n'a pas béni dedans et qui n'a jamais été dedans? La seule manière, c'est de le pousser à faire la mitzvah une fois. D'accord? De le faire une fois, une mitzvah, peu importe, même petite mitzvah. Et on ne sait pas quelle mitzvah va déclencher quelque chose chez lui parce qu'il a une neshama, tout le monde a une neshama. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en faisant une mitzvah, ça va faire un déclic chez lui, et peut-être ce déclic sera assez fort pour écraser le reste. Peut-être.
Mais tu lui rends pas service?
Pourquoi je lui rends pas service?
Parce qu'il va se mettre dans l'embarras.
Mais bien sûr, je lui rends service.
Non.
Je lui rends service parce que je l'aide à accomplir sa mission sur Terre. Il n'est pas descendu sur Terre pour manger des Big Mac toute sa vie. D'accord? Il est moins.
T'as raison. Il est descendu sur Terre pour aller au
Guinama. Non, il est descendu sur Terre pour un but, donc je l'aide à arriver à ce but. Mais combien de fois ça arrive des fois à des gens? Vous savez, ça m'arrive des fois, je dis une halakha à des gens, et j'ai dit, mais t'aurais pas dû me la dire cette halakha.
Non, arrête, si,
bien sûr. Ah oui, bien sûr.
Je suis obligé de la faire.
Bien sûr. Vous savez que Shulchan Aruch dit qu'il y a des halakhot, qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de dire aux gens qui ne vont pas les faire.
C'est ça, c'est ce que je
dis. Par exemple, d'accord? Par exemple, Shulchan Aruch dit, en ce qui concerne la halakha, de préparer les légumes pour Shabbat. Quand on prépare les légumes Shabbat, on n'a pas le droit de les couper en tout petit dés. Ça s'appelle moudre. Mais il y a un endroit qui est dans le Shulchan Aruch qui dit que si on sent que la femme va t'écouter, il ne faut pas lui dire. Parce que c'est mieux qu'elle le fasse sans faire exprès qu'en faisant exprès.
Comment on peut savoir qu'elle ne va pas t'écouter? Attends, quelqu'un dit qu'on y va.
C'est pas grave. Hein.
Un cas pratique. Tu vois
j'ai des cas des halakhot que je ne vous dirai pas parce que je n'ai pas le droit de vous dire.
Attends.
Oui,
bon, écoute-moi bien.
Il y a des halakhot que je n'ai pas le droit de vous dire. C'est écrit. Non.
Parce qu'on ne va pas les appliquer.
On va partir à 11h30.
Dis-moi, tu vois un juif devant toi. Tu sais qu'il est en train d'acheter un truc qui n'est pas cachère. Ça ne se voit pas forcément que c'est pas cachère.
Il faut lui dire, c'est pas cachère, c'est pas bien.
Mais tu sais qu'il va. Tu sais pas s'il va le faire ou s'il va pas le faire.
Non, il faut toujours dire, ça ne change pas. Ok, Rabotai, on va continuer un petit peu dans les mots. Il faut lui dire. Au contraire, ne pas lui dire, c'est une avéra. La Torah te dit, tu dois le réprimander, tu dois lui dire, c'est pas bien ce qu'il fait. Oui, parce qu'on sait qu'on va pas les appliquer.
Alors, comment tu peux lui dire, tu peux lui dire?
Comment
tu peux dire, tu ne peux pas, tu peux le dire? C'est
alors,
ça,
c'est pour ça que je te dis, une personne qui est en train de manger quelque chose de pas cachère, qui est dans un restaurant pas cachère, d'accord? Il sort du restaurant, tu lui dis, tu sais, c'est pas cachère le restaurant. Il dit, merci, je savais pas. C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Il faut l'inviter à venir un jour, dis, viens, je t'invite à manger, prendre un café. Et tu parles avec lui, tu l'invites Shabbat à table. Et quand il va manger un repas cachère, peut-être que dans son corps, ça va faire quelque chose qui va se dire, ben tiens, il faudrait pas que je mange pas cachère. Mais en lui répétant, comme un khmar, excusez-moi du terme, en lui disant, tu sais, c'est pas cachère, il va rien se passer. Il continuera à manger pas cachère toute sa vie. Tu crois que c'est pas que c'est pas cachère? Bien sûr, ça sert à rien. Ok, maintenant, oui.
Moi, dans ma classe, par exemple, il y a un copain, bah lui, il n'a complètement rien à faire de...
Il fait pas Shabbat?
Non, rien du tout, en fait. Lui, il a baigné pourtant dans...
Et il fait pas Shabbat?
Rien du tout.
Et ses parents, ils font Shabbat?
Non.
Ah, bon, il est pas né dedans, là.
Non, mais... Voilà. Enfin, je sais pas, il sait c'est quoi Shabbat, il a déjà fait avant.
Mais il est pas né dedans.
Si, il est né dedans. Avant, il faisait,
mais... Non, mais ça change rien. À l'école juive, quand les parents disent quelque chose et que les professeurs disent quelque chose d'autre, en général, ce qui prévaut, c'est ce qui se passe à la maison. Vous savez, les guerres qu'on a avec ça, les guerres qu'on a quand t'as des élèves qui leur ont dit quelque chose, et après tu sais qu'ils rentrent à la maison, ils verront pile le contraire. Alors c'est vrai que des fois on a la chance, c'est que l'enfant il rend fou les parents. Il y a des cas comme ça, hein. J'ai vu des gars de mes yeux comme ça. Les enfants qui ont rendu fou les parents, et que grâce à ça les parents ont fait teshuva. Mais il faut des enfants avec beaucoup de caractère. Mais si c'est un enfant qui est plutôt follower, hein, c'est un enfant qui est plutôt qui suit, d'accord? Un suiveur. Eh ben, il rentre à la maison, il suit ses parents, et quand il est à l'école, il suit l'école, et c'est comme ça.
Hein? Par exemple, à l'école, eh ben, quand on parle de HN, tout ça, il dit plein de choses de contraire.
Oui, mais il ne sait pas de quoi il parle. Il dit des bêtises.
Il ne croit pas à
HN. Il ne croit pas. Il ne sait pas de quoi il parle.
Il n'entend pas.
Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle.
À chaque fois, il dit ça.
Excuse-moi. C'est comme si je te disais, par exemple, je dis je ne crois pas au yoga. Je ne sais pas ce que c'est le yoga. Tu sais quoi, je ne crois pas. Tu sais ce que c'est le yoga pour parler? Je sais pas. Je crois pas au yoga.
Ouais, mais lui, il sait.
Tu vas parler. Je vais dire, c'est quoi? Je crois pas à l'homéopathie. C'est du pipeau. Moi, je connais l'homéopathie. Je suis homéopathe. Je parle pas.
Ouais, mais lui, il sait qu'est-ce que c'est HM, qui c'est HM, etc.
Bah oui, on lui en parle.
C'est pas.
Il sait pas. On lui a parlé. Il a vu une pub. Parce qu'on a vu une pub, on est convaincu.
Mais à l'école, on lui parle toute la journée.
Mais c'est des pubs, ça. C'est des pubs, c'est pas ça ce qu'il voit à la maison.
Il se passe de rien.
Eh ben c'est des pubs. Voilà, tu vois une pub, tu rentres à la maison, le contraire, eh ben c'est fini, t'as oublié la pub. C'est une pub pour lui. C'est tout. Il faut être conscient de ça. Je pense que ça nous donne une approche complètement nouvelle. Comment regarder les gens qui sont pas religieux.
Des fois t'as compris, si à la maison c'est religieux, puis le gosse dès qu'il est dehors, il est.
Bien sûr. Bon, Rabotaille, on va devoir terminer. Donc je vais terminer avec la troisième catégorie de rachat, rachat de catégorie C. Ce que le rachat de catégorie C. C'est celui vraiment qui est rachat idéologique, qui ne regrette jamais ce qu'il fait, et qui n'a même pas une pensée de teshuva.
D'accord?
Il est rachat béhémet. Il baigne dans sa avéra, il dit, moi je suis un vrai rachat.
C'est génétique. C'est inné.
Je me rappelle comme ça, je me rappelle, il y avait un juif comme ça, rescapé de la Shoah. J'allais tous les vendredis après-midi pour mettre les téfilines aux commerçants, au Kremlin Bicêtre. Et là-bas, il y avait un magasin qui vendait des portables. Il y avait toujours un vieux là-bas, rescapé de la Shoah, qui tournait là-bas. Et chaque vendredi, je venais pour lui proposer de mettre les téfilines. Il était avec un autre ami, l'autre il mettait, lui il mettait pas. Et chaque vendredi, bien, moi je suis un vrai rachat, moi je suis un vrai rachat, je crois pas en ça. Il se moquait de nous, etc. et tout. D'accord? Et je me rappelle, et chaque semaine, et moi, et le commerçant, je lui dis, mettez les téfilines, il n'avait jamais mis les téfilines. Ou je crois une fois, enfin en tout cas, je crois qu'il avait très 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 longtemps qu'il n'a pas mis les téfilines. Il était déjà d'un certain âge, et une fois, alors chaque fois je lui sortais de nouveaux trucs, hein. Une fois je lui disais, c'est bientôt Pessah, après c'est bientôt Shavuot, après c'est mon anniversaire, après, vous savez, on utilise tout ce qui passe, ou bien c'est l'anniversaire de mon père, c'est l'anniversaire d'un tel, tu inventes tout ce qui te passe par la tête, ce qui est vrai, pour essayer, va savoir ce qui va l'accrocher. Et une fois, je me rappelle, comme ça, je suis venu, je crois que c'était avant Kippour. Hein. Et je lui dis, écoutez, on est avant Kippour, il faut mettre les tefilines. Je lui ai pas dit, est-ce cool? J'ai dit, il faut mettre les tefilines. Et là, hein, il me regardait comme ça. Et j'ai senti une hésitation. Qu'est-ce qu'il fait un commercial quand il sent une hésitation? Il passe à l'acte. D'accord? Hop! Et là, je lui ai mis les tefilines. La semaine d'après, quand je suis revenu, il était plus là.
Où il est passé?
Il est nifta.
Wow.
Il est tombé malade, hop, il est parti chercher. Je sais pas, voilà, je vous dis, moi je vous raconte l'histoire telle quelle. D'accord, je suis revenu la semaine d'après, il était pas là, il est tombé malade, hop, il est mort. Non, pas du tout. Ça veut dire que sa neshama, avant de remonter chez HM,
elle a point sonné.
Moi je vois, j'ai senti ça comme ça, il avait une mission, il devait mettre les tefilines. Et quelque part, tant qu'il n'avait pas mis les tefilines, ouais. Sa neshama ne le laissait pas partir. Ouais. Bah, il était déjà âgé, il était au moins 90 ans, il était déjà d'un certain âge.
Alors ça lui a pas fait du bien, ses tefilines.
Si je vous dis, c'était un bonhomme de 90 ans, mais il marchait sans canne. Une baraque.
C'est le commerçant qui a fait.
D'accord? Une baraque. Il a mis les tefilines. Une baraque, je veux dire. Quand je lui ai mis les tefilines, je peux vous dire que c'était pas un bras mou. C'était un bras costaud. 90 ans, il avait le bonhomme. Une baraque. Et voilà. Même une personne qui se moque et n'a pas de se moquer, etc. Il faut pas regarder les mots que la personne dit. Il faut regarder ce qu'il y a derrière les mots. Et qu'en vérité, derrière les mots, il faut voir une personne qui souffre. Et quand il se moque, ça veut dire qu'en vérité, qu'il est en train de souffrir. Je vais terminer avec ça. Donc il dit celui qui est rachat dans la catégorie C, d'accord. Nikra rachat veralo, il est appelé un rachat veralo, un rachat qui a que du mal. Shearach benafsho ou levado nishar bekirbo. Ça c'est un rachat qui a que du mal en lui. Il a que le mal et le bien ne s'exprime jamais. Ki gavar kolkar à la top hachimistalek mikirbo. Que des fois ça peut arriver, c'est très très rare. Mais que tellement il a fait de mal, que le mal tellement il s'est emporté sur le bien, que du coup maintenant il reste plus de bien. Alors, c'est pas qu'il reste plus de bien. Parce que jamais, Chas v'Shalom, on peut dire qu'un juif, il reste plus de bien. Il y a toujours du bien. Mais tellement il a écrasé le bien, que du coup, le bien, maintenant, ne s'exprime plus jamais. Et quand il s'exprime plus jamais, ben du coup le bonhomme il s'exprime que du mal, donc il fait que du mal, il pense qu'aux bêtises, il regrette jamais, il a aucune pensée de teshuva. Véromet, Biprinat, Makif, Alavin, Mala. Alors néanmoins, est-ce que ça veut dire que ce rachat-là, il n'a plus de bien, il a du bien. Mais c'est un bien qui est Makif. Makif, c'est-à-dire qui est très loin. Ça veut dire que, des fois, de temps en temps, il a une pensée lointaine, un rêve, lointain, qui se rappelle, ah, un jour j'étais comme si. Mais c'est un rêve qui est tellement lointain, hein, que c'est pas concret, c'est pas réel, ça lui parle pas dans la vie de tous les jours. Un rachat comme ça, il peut mourir, rachat. Il regrette pas. Pas parce qu'il veut pas regretter. Parce que c'est tellement loin pour lui le bien que finalement concrètement il regrette jamais. Mais vous comprenez comme on a dit ici, velachen amru rabotenu zichrona livracha akol be'asara shrin tasharia. Je terminerai avec ça. La Gemara nous dit que même quand il y a 10 personnes, quand il y a 10 personnes qui sont réunies, même si parmi ces 10 personnes il y a un rachat veralo, rachat catégorie C. Je vais vous dire plus que ça. Imaginez un bar dans lequel vous avez 10 rachats en train de faire des bêtises, catégorie C. Des rachats, kiffeurs, par idéologie, ils n'ont rien à faire et ils regrettent jamais. D'accord? Ah bah, qu'est-ce qu'il te dit? Chassé Shalom, je parle pas des Tunisiens. Bah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que quand même, la shrina est toujours là. Oui. Quand ils sont 10 personnes, ils peuvent faire un minyan. En tout cas, la shrina est là. Pourquoi la shrina est là? Parce que même une personne qui est rachat de catégorie C et que le bien ne s'exprime jamais, concrètement, on dit que le bien est toujours makif. Il est toujours superficiel sur lui. C'est-à-dire qu'il continue toujours à l'entourer. Et c'est quoi ce bien qui continue à l'entourer? C'est la shrina qui entoure le juif. Que le juif, il peut dire, je me suis converti, Dieu préserve. Il peut devenir ce que tu veux. La shrina ne le quitte jamais. Quand tu as 10 personnes comme ça qui se réunissent, eh ben, ces 10 personnes qui se réunissent, la shrina est avec eux. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. Et donc voilà.
Même un converti?
On peut pas se convertir.
Non, mais d'accord.
Comme.
Le type, il est allé.
On peut pas se convertir.
Il est allé signer.
Même s'il a une grande croix.
Non, mais il est allé signer.
Même si c'est devenu le grand prêtre.
On peut faire qualifier. D'accord.
Je suis pas en train de dire qu'on pourra le prendre pour le minyan. Je dis que j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des choses après que, par respect pour Akadosh Baruch Hu, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est un manque de respect. Mais ça change pas que 10 personnes comme ça qui sont réunies, la shrina arrive. C'est-à-dire que si par exemple on est 9 autour de cette table et que lui il rentre dans la pièce et qu'il s'assoit, il a amené la shrina. Même si on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que la shrina continue à l'entourer. Et donc il continue à être une unité du Ham Israël. Qu'on le veuille pas.
Bah oui, d'accord? Voilà.
Donc pour conclure, on a eu ici 3 catégories de rachat. Catégorie A, c'est le rachat soft. Catégorie B, c'est la majorité des gens comme nous qui regrettent constamment la vérité qu'ils font. Catégorie C, c'est un rachat qui regrette jamais ce qu'il fait, d'accord? Mais quand même, la shrina continue à résider sur lui. Ok. Maintenant, une fois qu'on a expliqué ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer à parler maintenant du Benoni. Et le Benoni, c'est le niveau vers lequel on va aspirer. Non, vous allez voir, n'inquiétez pas. C'est jouable, mais avant d'expliquer ce que c'est un Benoni, on a d'abord compris qu'on n'était pas un tzaddik. On a compris que dans la majorité des cas, finalement, on est un, on va dire un rachat betovlo, rachat moyen. Maintenant qu'on a compris ça, quand on va te dire soit Benoni moyen, je vais dire, ah, moyen, c'est pas mal. Parce que si on prenait au début du Tania, tu dis soit moyen, je dis, mais moi, je veux pas moyen, moi, je suis au top, moi, je suis religieux, moi. Et quand on a fait tout ce parcours-là, on comprend qu'on est très très loin du chemin. Et là, maintenant, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un Benoni. Alors, ça arrête là pour aujourd'hui. Merci.